Et c'est l'heure de retrouver Anne Verdaguer pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne.
Bonjour Maïwenn, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, cette panne d'électricité gigantesque à Caracas et dans le reste du Venezuela qui dure depuis maintenant 4 jours, qui touche la majorité du pays, la vétusté des équipements est en cause, mais le président Nicolas Maduro parle, lui, d'un sabotage venant des États-Unis. On entendra les habitants de Caracas qui ont du mal à s'approvisionner en eau, en nourriture ou encore en essence et qui manquent déjà de tout. Notre invité Jean-Michel Lacroix, professeur émérite de civilisation nord-américaine à l'Université Paris 3, on parlera avec lui de cette crise politique. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau est en difficulté. Il est soupçonné d'avoir voulu influencer la justice dans une affaire de corruption. 2 ministres ont déjà démissionné, dont la ministre de la Justice. Mais qu'est-ce que cette crise nous apprend sur les clivages de la société canadienne ? Le Venezuela est donc plongé dans le noir pour la 4e journée consécutive malgré quelques retours furtifs de l'électricité, notamment à Caracas hier. La quasi-totalité du territoire subit cette gigantesque panne de courant. Le président Nicolas Maduro dénonce un sabotage orchestré par les États-Unis. L'opposition accuse de son côté les autorités de ne plus entretenir le réseau électrique depuis des années. En attendant, les Vénézuéliens, eux, tentent de survivre. Le reportage à Caracas de notre correspondant Benjamin Delisle.
À cause de la panne d'électricité, les pompes du réseau d'eau ne fonctionnent plus dans la capitale. L'une des solutions pour les habitants, aller chercher l'eau directement à la villa, la montagne qui surplombe la ville. Carmen attend depuis plus d'une heure au milieu d'une file de voitures qui s'étend sur 1 kilomètre.
Ici, il y a une source d'eau potable, donc nous faisons tous la queue avec nos bouteilles pour la ramener chez nous.
Depuis qu'il n'y a plus de courant, Carmen multiplie les galères, la première étant d'habiter au 18e étage de son immeuble.
Les ascenseurs ne fonctionnent plus. Donc c'est très difficile de rentrer, de sortir, surtout pour les personnes âgées ou handicapées.
Elle finit par remplir 4 bidons de 15 litres car elle ne pourra pas revenir de sitôt. Sa voiture n'a presque plus d'essence. Et dans la capitale, les automobilistes comme Teresa prennent les stations-service d'assaut.
Cela fait 5h30 qu'on attend pour mettre de l'essence. Mais tant qu'il n'y a pas de courant, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas distribuer l'essence sans électricité. Pourtant, la station est pleine de gasoil.
Pour Teresa, cette coupure géante est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment, plus personne ne soutient ce système qui nous mène vers le chaos.
Un groupe d'automobilistes approuve la retraitée et assure que quand tout cela sera réglé, le gouvernement devra rendre des comptes. Benjamin Delisle, Caracas RFI.
Et on passe à la revue de presse des Amériques avec Arim Lipol. Bonjour Arim.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une, bien sûr, le Venezuela plongé dans le chaos depuis jeudi à cause donc de cette vaste panne électrique.
Oui, c'est à la une de plusieurs journaux, à commencer par El Nacional. Le quotidien proche de l'opposition relate l'incertitude sur le nombre de personnes décédées dans les hôpitaux. Ce week-end, le chiffre de 296 morts circulait sur les réseaux sociaux. Anne, rien que dans l'hôpital de Maracaibo, une information fausse selon 2 responsables. Médicaux cités par El Nacional. Les médecins n'ont pas donné d'autres informations. D'après un député de l'Assemblée nationale, 18 Vénézuéliens sont décédés faute d'avoir reçu les soins nécessaires, c'est-à-dire dans El Nacional.
Et de son côté, le gouvernement affirme qu'il n'y a aucun mort à déplorer du fait de cette coupure électrique.
Une coupure que les autorités attribuent à un acte de sabotage venant de l'extérieur. C'est à la une du site de la chaîne Telesur, proche du gouvernement. Ce week-end, le ministre de la Défense Padrino López a assuré que les forces armées étaient déployées dans le pays afin de garantir la paix et la stabilité. Selon López, cité par le site Telesur, le Venezuela fait face à une tentative de déstabilisation visant à semer le chaos, un chaos susceptible de préparer, toujours selon López, une intervention étrangère. Cette hypothèse est vigoureusement rejetée par certains spécialistes. Un ingénieur qui a travaillé pendant 24 ans dans le secteur de l'énergie, explique dans les colonnes du journal El Nacional que la panne électrique est liée à la vétusté des lignes qui distribuent l'électricité et qu'il faudrait l'aide de spécialistes étrangers pour réparer cette panne.
En attendant, Arim, le gouvernement a déclaré ce lundi journée chômée pour les fonctionnaires et les écoliers au Venezuela.
En revanche, pas de journée chômée pour le président autoproclamé par intérim Juan Guaido. L'opposant entend tirer parti de la gigantesque panne de courant en appelant le Parlement à voter ce lundi l'état d'urgence. C'est à la une du journal La Voz. La situation dans le pays fait aussi les gros titres de la presse nord-américaine. Le Venezuela est définitivement vivement en train de s'effondrer, écrit le Washington Post. Depuis des années, des observateurs évoquent ce cas de figure, l'effondrement du pays. Mais ces jours-ci, on y assiste vraiment, estime le quotidien, qualifiant la panne électrique de catastrophe finale. Une panne dont beaucoup d'ingénieurs nationaux craignaient l'arrivée depuis des années.
Direction le Nicaragua, à présent, Arim, la plateforme d'opposition Alliance civique pour la justice et la démocratie a annoncé qu'elle ne renouerait le dialogue avec le pouvoir du président Daniel Ortega que s'il libérait les prisonniers politiques.
Oui, c'est à la une du journal La Prensa qui publie le communiqué de l'opposition dans lequel elle affirme qu'elle reprendra sa participation à la table des négociations une fois que le gouvernement du Nicaragua aura fourni au pays des preuves qu'il a des solutions tangibles et globales pour résoudre la crise. En fait, samedi dernier, le président Daniel Ortega avait proposé de libérer les prisonniers politiques qui n'ont pas encore été jugés. Les dirigeants de l'opposition contactés par La Prensa attendent aussi d'Ortega qu'il annonce la tenue d'élections anticipées, ce qu'il refuse de faire jusqu'à présent. C'est une situation très compliquée, estime le journal, qui demande à l'opposition de ne pas rompre le dialogue avec le gouvernement. Le problème, c'est que ce dialogue est à la fois critiqué dans les réseaux sociaux et par l'Église catholique qui refuse d'y participer. Et du coup, l'Alliance de l'opposition fait face à une double pression, celle du gouvernement et celle des divers acteurs de la société civile.
Arim, un autre sujet à la une de la presse nord-américaine.
Oui, USA Today s'interroge sur la sécurité des appareils Boeing, notamment le 737 MAX 8, car c'est la deuxième fois en quelques mois que cet appareil s'écrase quelques minutes après son décollage. Le crash mortel en Éthiopie qui a tué 157 personnes est aussi une claque énorme pour le constructeur américain, écrit USA Today.
Et puis autre sujet, on en parle peu, l'américanisation des noms étrangers.
Oui, c'est une tribune de l'écrivain vietnamien Viet Thanh Nguyen à lire dans le New York Times. L'auteur se plaint de cette tradition américaine qui fait que les étrangers s'installant aux États-Unis se sentent obligés de changer leur prénom et aussi leur nom de famille. Il donne un exemple, lorsque ses parents vietnamiens sont arrivés en Amérique, eh bien ils ont opté pour un changement radical en choisissant les prénoms Joseph et Linda. À l'époque adolescent, Viet Thanh Nguyen s'était révolté contre cette attitude, donc l'attitude de ses parents, et lors de son parcours professionnel, on lui a proposé à plusieurs reprises de prendre un nom typiquement américain, comme par exemple Bruce Smith, mais jusqu'à présent il a tenu bon, ce qui lui permet aujourd'hui de continuer à rire lorsque l'employé d'une chaîne de café américain très très connue écorche son prénom en l'écrivant sur le petit gobelet.
Merci beaucoup Arim Lipol. N'oublions pas que ça existe aussi en France, cette tendance à franciser les noms. On vous retrouvera prochainement pour une nouvelle revue de presse des Amériques. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, est-il en train de jouer sa carrière politique? Depuis trois semaines, deux ministres clés de son gouvernement ont démissionné, notamment la ministre de la Justice, et cela à sept mois d'une échéance électorale. Justin Trudeau peut-il survivre à ce scandale? Bonjour Jean-Michel Lacroix.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de civilisation nord-américaine à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, auteur chez Talendier d'Histoire du Canada, des origines à nos jours. Peut-on tout d'abord rappeler de quoi l'on parle exactement? Cette affaire du géant du BTP SNC-Lavalin, impliqué donc dans un scandale de corruption avec la Libye.
Oui, effectivement, à côté de l'actualité et de ce qui se passe au Venezuela, la situation canadienne me paraît moins dramatique, mais ceci étant, Trudeau est face à une crise politique majeure qui est due à un soupçon d'ingérence dans une procédure judiciaire qui était engagée contre l'entreprise, le géant du BTP, SNC-Lavalin. Bon, il est très difficile naturellement de savoir exactement ce dont il est question, parce que chaque fois qu'on a affaire de corruption, alors il paraît avéré que Lavalin a traité des contrats avec la Libye et qui est probablement pour obtenir des marchés, la corruption n'a pas été complètement absente. De là à accuser Trudeau d'être en quelque sorte de faire une ingérence sur le pouvoir judiciaire, il y a peut-être un pas qu'il faut franchir avec, réticence, dans la mesure où d'abord la présomption d'innocence, les médias s'empressent de faire le buzz sur les moindres affaires et sur les moindres scandales. Ce ne serait pas la première fois qu'il y aurait de la corruption au niveau des politiques. Mais par ailleurs, les déclarations de Justin Trudeau semblent montrer qu'il a agi de façon professionnelle et en respectant les procédures. Et donc, il n'y a pas d'interférence avec les décisions du pouvoir judiciaire.
Mais en tout cas, Jean-Michel Lacroix, c'est ce que vous me disiez, cela prend beaucoup d'ampleur sur place.
Oui, alors effectivement, au départ, on pouvait minimiser l'affaire. Bon, les démissions, c'est une affaire. Il y a eu deux démissions de ministres. La troisième démission, c'est en réalité le secrétaire, un des conseillers spéciaux de Justin Trudeau et qui veut être libre de sa parole pour ne pas être jugé parti et plaider en faveur, d'ailleurs, de la thèse défendue par le Premier ministre canadien. Bon, en dehors de ces démissions, il faut surveiller les choses de près. S'il devait y avoir davantage de démissions, l'affaire prendrait une tournure certainement très difficultueuse pour le Premier ministre. Bon, j'ai tendance à penser que les déclarations du Premier ministre et les déclarations de l'ancienne ministre de la Justice qui a démissionné, Madame Wilson-Raybould, c'est un peu parole contre parole. C'est-à-dire, il est difficile de rentrer dans les détails techniques des procédures qui sont extrêmement complexes.
En tout cas, Jean-Michel Lacroix, excusez-moi, je vous coupe, mais une condamnation de cette entreprise du BTP mettrait en péril de nombreux emplois. On parle de 9000 emplois. Est-ce que l'on peut imaginer que le Premier ministre canadien a voulu sauvegarder ces emplois?
Alors, en tout cas, c'est la thèse qui est défendue par le Premier ministre qui s'est déclaré soucieux de préserver l'emploi, ce qui me paraît, dans une perspective électoraliste, tout à fait naturelle et tout à fait convenable. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de campagne préélectorale, même si nous ne sommes pas à la toute veille de l'élection fédérale. En tout cas, je constate que toute l'opposition saisit cette affaire pour naturellement faire chiffon gras et mettre en difficulté un Premier ministre dont la cote s'était malgré tout, je dirais, un peu déstabilisé par rapport à l'enthousiasme de son élection il y a 3 ans.
Oui, alors justement, comment cela affecte-t-il d'une part le Premier ministre, mais aussi le gouvernement libéral de Justin Trudeau?
Alors l'opposition, jusqu'à une date relativement récente, c'est-à-dire jusqu'à une dizaine de jours, les sondages donnaient le Parti libéral gagnant aux prochaines élections. L'écart s'est non seulement resserré, mais il semble que depuis deux, trois jours, peut-être même quatre, l'écart de voix, des intentions de vote entre le Parti conservateur et le Parti libéral s'est non seulement resserré, mais est à l'avantage du Parti conservateur. Bon, mais l'écart n'est pas colossal. Quand on est entre 36% et 38% d'intentions de vote, voire un peu plus, c'est infime. Je rappelle que lorsque Justin Trudeau a été élu Premier ministre du Canada il y a 3 ans, 15 jours ou 3 semaines avant l'élection, personne ne donnait le Parti libéral gagnant, donc le scrutin est extrêmement serré. Bon, donc l'opposition, naturellement, s'est emparée de cette affaire. Le chef du Parti conservateur a une excellente occasion, bien sûr, de vouloir promouvoir l'alternance, d'autant plus qu'il représente le Canada anglophone et qu'on peut penser qu'on a des éléments, je dirais, de la spécificité politique canadienne, en quelque sorte, dans les relations entre le Québec et le reste du Canada. Les Canadiens anglais ayant toujours tendance à penser, au nom de leur souci d'une morale un peu puritaine, que les francophones au Québec sont des corrompus, ce qui naturellement est à fond dans le stéréotype. Mais qu'en dit-on sur les relations entre le Québec et le reste du Canada?
Jean-Michel Lacroix, est-ce que Justin Trudeau, depuis qu'il a été élu, a fait le job, comme on dit là-bas? Autrement dit, est-ce que cette affaire cache aussi une part de déception de la part des électeurs?
Oui, ils sont inconsidérablement, même s'il y a une exploitation électoraliste. C'est sur un fond de, non pas de discrédit, mais l'enthousiasme suscité par l'élection de Justin Trudeau, c'était une sorte de figure charismatique, c'était un jeune premier, un Kennedy à la canadienne, un homme soucieux de communication, d'image. On s'est ensuite aperçu que peut-être cette image demeurait dans les débats en proximité avec les citoyens, parfois un peu superficielle. On peut aussi mesurer, dans une autre mesure, l'écart entre les promesses et les actes. Et c'est clair que le Premier ministre, après 3 ans de pouvoir, subit l'érosion habituelle
Et donc, c'est vrai que l'opinion publique canadienne est moins enthousiaste sur la réélection du Parti libéral. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'alternance politique dans un pays où le bipartisme triomphe va nécessairement avoir l'avantage pour les conservateurs.
Et Jean-Michel Lacroix, si on veut même aller plus loin, est-ce que cette affaire révèle aussi une société canadienne fracturée? Et là, on pense à la démission de la ministre de la Justice, qui est autochtone, dans un contexte où la réconciliation est bien difficile, hein.
Oui, alors ça, c'est un élément important. C'est toujours très difficile de se référer à tous les aspects ethniques ou aux origines raciales des membres du gouvernement. Mais il faut reconnaître que Trudeau s'était engagé, et il l'a fait, avoir un gouvernement où il y avait une parité entre les hommes et les femmes. Et il a nommé dans son gouvernement toute une série de représentants des minorités dites visibles, que ce soit des autochtones. Enfin bref, la réflexion même, l'image d'un Canada multiculturel qui respecte les autres, quelles que soient leurs origines. Alors le fait que cette ministre soit d'origine autochtone peut être un élément qui permet de penser que dans ce que je disais sur parole contre parole, peut-être dans une société où les autochtones n'ont pas toujours été, écoutés, respectés, reconnus, le poids de la parole d'une autochtone par rapport à un premier ministre blanc conservateur ou même s'il est libéral demeure associé à l'image des élites, d'une domination des riches par rapport aux pauvres. Donc on peut très bien aller dans cette direction.
Merci.
Ce n'est pas complètement innocent.
Merci Jean-Michel Lacroix, professeur émérite de civilisation nord-américaine à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle.
RFI, la sélection du mois.
Et tout de suite, le journal La Première Caraïbe avec Tiziana Maron. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne.
En Martinique, ce week-end, l'heure était au grand débat national.
Oui, et c'est à l'amphithéâtre de l'Université des Antilles, sur le campus de Chercheurs, que le grand débat a eu lieu. Une centaine de personnes a répondu à l'invitation de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Au cœur du débat, le logement, l'éducation et surtout la jeunesse. Écoutez ces réactions recueillies par Manuel Larade de Martinique La Première.
Nous avons nos propres questions à nous. On nous dit tout le temps, ah ouais, la Martinique, population vieillissante. Mais d'accord, population vieillissante. Mais nous avons aussi nos jeunes qui sont gangonnés par la drogue, par l'alcool. Et nous n'avons pas des structures pour les accueillir en population vieillissante. D'accord, en plus, côté nous, quand on mettait tous ces jeunes-là, qu'est-ce que ces jeunes-là pourront décider pour la Martinique?
C'est bien beau de solliciter beaucoup de doléances, mais il faut que nous, en tant que Martiniquais, qu'on prenne conscience que c'est nous-mêmes qui devons d'abord nous éduquer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de ce côté. Moi, c'est la thématique alcool, addiction auprès des jeunes collégiens, des lycéens. Au niveau du rectorat, qui est un département spécifique pour beaucoup de jeunes qui souffrent malheureusement d'addiction et qui soient aussi bien suivis en thérapie personnelle, mais aussi au niveau de thérapie familiale.
Cap sur la Guadeloupe, hier s'est déroulée la 5e édition de la course solidaire en faveur de la lutte contre le cancer du sein. 1 millier de personnes y a participé, notamment des proches des malades ou des personnes venues simplement par solidarité. Martial Arconte, le président de la Ligue contre le cancer de Guadeloupe.
Ça correspond tout à fait à nos missions, parce que nos missions consistent à accompagner les malades, mais surtout à accompagner les proches des malades. Et quelquefois on se dit qu'il est plus important, plus difficile d'accompagner le proche que le malade lui-même. Parce qu'à un certain moment, la personne malade prend conscience de sa situation et puis s'arme de ce qu'il faut pour pouvoir tenir bon, pour pouvoir résister pendant la maladie.
Martial Arconte, le président de la Ligue contre le cancer, au micro Guadeloupe La Première. Bonne journée.
Bonne journée, merci Tiziana Maron pour ce journal La Première Caraïbe. C'est la fin de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous être fidèles. On se retrouve demain, même heure, 14h10, heure de Paris, 13h10, en temps universel. Très bonne journée à tous.